Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
La rentrée scolaire est souvent très difficile hein, pour certains élèves qui viennent des longues vacances. D'après les experts, c'est pour ces élèves, il faut du temps, n'est-ce pas, pour se réadapter parce qu'ils étaient en repos pendant un long moment, pendant pratiquement 2 mois. Et maintenant, il faut reprendre. Bon, c'est pas toujours très facile pour eux. Ça demande un moment. Mais pour d'autres, c'est la joie plutôt de retrouver les enseignants, les amis et l'ambiance hein, à l'école. Alors, question de préalable pour que tout se passe bien. Jean Moufépé est promoteur d'école privée à Kikuité à Bandonouville. Hein, il est le président provincial de l'ASONEPA, l'Association nationale des écoles privées agréées. Jean Moufépé, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, dites-nous quels sont ces préalables pour bien démarrer une année scolaire.
D'abord, j'aimerais dire pour les enfants, une habitude se crée maintenant pour ne pas traumatiser ou plutôt... pour ne pas dépayser les enfants. En réalité, les vacances scolaires, c'est pour le personnel enseignant 30 jours. Mais si on en arrive à deux mois, c'est pour permettre aux enfants de reconstituer leurs forces. Alors, il arrive qu'ils perdent la matière apprise pendant ces 2 mois. Et il faut un reconditionnement. Alors, on assiste maintenant par-ci, par-là, à des activités de vacances, comme des cours d'anglais, cours d'informatique, encadrement des enfants dans plusieurs domaines. Donc, de plus en plus, on commence à faire un effort pour que les enfants se remettent vite dans le bain. Mais la plus grande difficulté, c'est pour les nouveaux, ceux-là qui vont à l'école pour la première fois. Alors, comment préparer une année scolaire si on se situe au niveau des responsables, chefs d'établissement ou promoteurs? Je prends le cas précis des écoles de la Fondation Banaté. Qu'est-ce que nous faisons dans le cas pratique? Généralement, nous commençons par l'étude de la situation de l'école à la clôture de l'année précédente. Et là, nous voyons les différents problèmes qui se sont présentés à la clôture de l'année. Par exemple, les dettes et des frais scolaires. La pratique devient courante dans le pays. Les écoles emmagasinent ou bien enregistrent des sommes importantes d'argent non payées par les parents compte tenu de la conjoncture socio-économique du pays. Mmh. Et donc, ça devient compliqué. On termine toujours en clôture l'année.
Avec des dettes.
Avec des dettes. Et on ne sait pas vraiment résoudre certains problèmes. Et à cela, on peut ajouter aussi les arriérés dus aux tiers. Ça peut être des dettes, des fournitures achetées ou bien des dettes en ce qui concerne certaines obligations des écoles vis-à-vis de certains services. Les dettes, par exemple, de salaire du personnel, ça fait partie des arriérés à gérer. Il y a aussi les grands problèmes de l'année écoulée. Quelles sont les principales remarques, les observations, les suggestions? Et ces remarques, ces observations, ces suggestions peuvent venir de l'inspection. Généralement, ça doit venir de l'inspection. C'est la police de l'enseignement et des parents, parce que ce sont eux qui donnent les moyens, qui nous donnent les élèves. Ils nous formulent leurs remarques, leurs observations. Et à l'école Banaté ou dans les écoles Banaté, par exemple, ce que nous faisons, du 1er au 15 juin de chaque année, nous donnons la possibilité aux parents, aux élèves, aux enseignants de faire la critique de l'école. À travers leurs critiques, nous pouvons dégager toutes les observations, les remarques négatives. C'est sur ça que nous nous appesantissons pour étudier et corriger l'année qui suit. Et quand on a épinglé ce deuxième point, on peut arriver à étudier les vacances dans le personnel enseignant. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui sont révoqués, il y en a qui sont peut-être décédés, ou il y a des cas de gens qui préfèrent changer de domaine. Mmh. Ils laissent un vide à l'école. Il faut faire l'étude de ces cas de vide à combler.
C'est pour cela que les enseignants reprennent un peu plus tôt hein, que les enfants.
Oui, généralement, nous avons dit que leurs vacances, c'est 30 jours. Mmh. Il y a des activités le 18 juillet de chaque année. Généralement, l'administration reprend dans les écoles. Et il y a des activités programmées sur le calendrier scolaire par le ministre de tutelle et qui doivent être absolument respectées.
Des moments de recyclage.
Oui, le moment de recyclage, le moment des inscriptions, le moment de remettre de l'ordre dans l'école, etc., etc. Il y a plusieurs activités donc qui sont prévues dans ce sens-là. Et puis, toujours dans le cadre des préparatifs, il faut penser à l'inventaire. Là, nous sommes à la clôture, la situation de l'école, à la clôture de l'année. Faire l'inventaire du mobilier, il y a des casses. Il y a peut-être la capacité d'accueil qui devient inférieure aux demandes. Donc, il faut étudier la possibilité, la situation des mobiliers, faire un inventaire. L'inventaire de l'équipement ou des matériels, l'inventaire de la documentation. Il y a des livres qui se perdent, qui se déchirent. Et il y a des livres qu'il faut acheter. Il faut faire l'état des lieux des bâtiments. Donc, déjà, pour préparer la rentrée scolaire, on prend en considération ces différents éléments. Si on ne fait pas cela, on ne sait pas assurer une rentrée correcte. Parce qu'on part d'une année, d'un exercice où on a eu à constater des faiblesses, des points forts aussi. Et on doit, pour commencer la nouvelle année, partir de ce qui a été constaté l'année antérieure.
Voilà. Nous avons en ligne docteur Kipasa de Kikwit. Bonjour docteur.
Bonjour Jody, bonjour à notre expert, à Jean. Bonjour à tous les auditeurs. Jody, c'est surtout pour rappeler à notre expert, je l'ai entendu élaborer sur beaucoup de préalables, mais de ne jamais, de ne pas oublier parmi les préalables prioritaires ou essentiels, c'est la médecine scolaire. Les enfants reviennent à l'école, les enseignants reviennent à l'école, mais vous ne savez pas dans quelles conditions sanitaires ils reviennent pour percevoir la matière et tout ce qui va être donné. Nous avions assisté avec lui. Lui, c'était un participant à la promotion scolaire qui s'était passée à Mazimanimba dernièrement. Nous avons insisté, il ne faut pas que les enseignants et ceux qui organisent l'enseignement oublient cet élément essentiel, préalable essentiel en ce moment qui est la médecine scolaire. D'ailleurs, il peut mieux élaborer parce que à Banaté, c'est quelque chose sur lequel ils tiennent compte. Merci, Jody.
Merci, docteur Kipasa. Monsieur Jean Moufépé.
Oui, effectivement, je salue le docteur Kipasa. On a été avec lui à la promotion scolaire provinciale du Kwilu à Massimanimba. Il a abordé ce point de la médecine scolaire. C'est essentiel, effectivement. Une fois, au cours d'une émission ici, le docteur Richard de Kinshasa est intervenu dans le même sens. Mmh. Un enfant ne peut bien étudier que s'il est en bonne santé. J'ai l'habitude de dire aux parents qui téléphonent, mon fils ou ma fille ne sait pas venir à l'école aujourd'hui parce qu'il est malade. J'ai dit, si la santé ne marche pas, ça ne sert à rien d'envoyer l'enfant à l'école. Évidemment, il y a des enfants qui, même s'il a fait un peu de fièvre à la maison, et quand le papa ou la maman dit, tu peux rester parce que tu ne te sens pas bien, il dit, non, je voudrais aller, je voudrais pas arrêter la leçon d'aujourd'hui. Mmh. Alors, là, c'est question de voir comment l'organisation de chaque école prévoit la prise en charge des enfants. Effectivement, comme l'a dit le docteur Kipasa, à Banaté, nous avons eu la chance avec l'USAID, ils avaient un projet de bourse pour filles, c'est 6 écoles de Kikwit qui étaient concernées. Ils ont donné une formation, un encadrement aux enseignants pour pouvoir dépister les problèmes sanitaires qui peuvent bloquer l'apprentissage des enfants. Chez nous, on a continué cette tradition, on fait cet effort. Et maintenant, d'ailleurs, dans les constructions que nous faisons, nous avons dégagé un petit coin que nous qualifions d'infirmerie. Il faudra peut-être...
Au sein de l'école.
Au sein de l'école. C'est un local qui abritera les nécessaires de santé, les soins de premiers secours. Et avec la collaboration du docteur Kipasa, puisqu'il est de Kikwit, nous aurons peut-être à voir comment former des spécialistes qui peuvent s'intégrer dans le système scolaire et gérer ce problème de santé des élèves. C'est très, très important, la médecine scolaire, dans la situation actuelle. Il y a des enfants qui viennent en classe affamés, il y en a qui viennent peut-être...
Dans
avec
certaines
des
écoles, on prévoit même des cantines.
Hein, oui, bien sûr, de plus en plus maintenant.
On offre la nourriture.
Bon, souvent c'est ici à Kinshasa, mais en province, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué aussi, les croyances et dans oui, certains parents n'acceptent
pas. On n'accepte pas que leurs enfants mangent à l'école. Alors, on est en train de parler de préalables pour bien démarrer l'année scolaire. Vous avez dit qu'il faut faire d'abord l'inventaire de la situation de l'école depuis la clôture.
Oui.
Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite hein?
Après, puisqu'on doit reprendre, à partir du 18 juillet, déjà l'administration se met en branle. Il faut qu'on prévoie ce qu'on va utiliser l'année qui commence. On commence par l'achat des fournitures, en tenant compte de ce qui a été fait comme étude de la situation de l'école à la clôture de l'année. Il faut penser au recrutement du personnel et à l'inscription des élèves. Il faut donc, pour l'inscription des élèves, arriver à maîtriser les effectifs. Il faudrait penser au recyclage, au séminaire de recyclage des enseignants et au séminaire d'encadrement du personnel pour réparer les lacunes constatées l'année antérieure, combler les insuffisances dans la formation des enseignants, apporter de nouvelles informations parce qu'il y a des innovations qui interviennent. Mmh. Par exemple, dans notre pays, cette année, le gouvernement a décidé que la section commerciale, la section technique commerciale administrative n'existait plus. Maintenant, on parle de commercial informatique et commercial gestion. Il y a des innovations qui entrent. Mmh. Alors, il faut quand même préparer les enseignants à faire face à ces innovations. Dans les méthodes d'enseignement, maintenant, on tend à passer de la pédagogie par objectif à l'approche par compétence. Il faut penser à faire former les enseignants pour qu'ils s'adaptent à ces nouvelles, à ces innovations, à ces changements.
Oui.
Donc, le séminaire de recyclage a pour objet de réparer les lacunes, de combler les insuffisances et d'informer les enseignants, le personnel, sur les innovations qui interviennent dans le domaine de l'enseignement.
Nous avons deux autres auditeurs en ligne. Dieu merci. Demandons-nous, docteur Richard est à Kinshasa. Dieu merci. Bonjour. Et quelle est votre question? On vous écoute. Dieu merci. Oui, on vous écoute.
Moi, je suis pas pour notre invité. Je voudrais qu'il mette par rapport à l'inventaire du personnel. Parce que nous essayons de voir dans certains milieux, il y a l'école qui ouvre ses portes, peut-être pour commencer avec la troisième. Mais il n'y a pas l'offre. C'est rare d'entendre parler des offres dans l'enseignement pour le moment. Mais vous trouvez cette école qui a déjà des enseignants. Mais c'est difficile pour un employeur de se faire aider à tel ou tel monsieur qui est compétent et peut bien rendre service. Maintenant, comment aider ce chef d'établissement, parce qu'il a bien parlé ici de l'inventaire, et l'inventaire concerne aussi les personnels qui vont rendre service dans cette école. Comment aider le chef d'établissement à passer à cette étape d'inventaire du personnel? Comment aussi aider cet établissement? Comment aider les enfants? Il y a certains enfants abandonnés. Et ça, vous demandez, est-ce que c'est voué? C'est même qu'ils doivent faire. Ils doivent payer les sujets mêmes, les cahiers, préparer et tout. Maintenant, comment aussi aider ces enfants? Parce que tu peux avoir d'expérience.
Voilà. Dieu merci. La communication est très très mauvaise. On ne sait pas écouter le reste. Alors, désolé, docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Quelle est votre question? Bonjour.
Bonjour Jody. Bonjour à notre invité, monsieur l'expert. Je voudrais faire des appuis. On a parlé de la santé. Je crois que la santé, c'est bien d'aller chercher qu'est-ce qu'ils étaient, nos enfants pendant les vacances, etc., etc. Mais on oublie que chez les filles, la coiffure, la étoile, c'est une agression. Et personne ne veut analyser ça. J'ai écrit au docteur Bongongo, directeur national de médecine scolaire, avec copie chez le ministre Macaire, Mwango. Les gens n'ont pas regardé ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une médecine d'analyse. Nous subissons ce que les autres voient. Et entend. La tenue bleu-blanc ou bleu ou sombre avec blanc, ça, quand vous regardez dans la lutte contre la mousse tétée, la lutte contre la cécité des rivières par le simuli, on utilise cette composition. Maintenant, nos enfants qui sont dans des conditions où il y a d'abord, nous sommes dans une zone tropicale humide. On est sujet à toutes ces agressions. Nos enfants sont des véritables attracteurs de ces insectes qui attaquent. Parce qu'il faut parler des innovations. Alors, sur le plan de la santé aussi, vous savez aussi que le thé chez les enfants est agressif. Pourquoi? Parce que, en saluant le docteur Kipasa, lui aussi, il sait que il y a une substance, le tanin, ça bloque le fer dans le tube digestif. Et l'enfant se retrouve anémié. Or, un cerveau sans globules blancs, disons rouges, n'est pas fonctionnel, parce que c'est un cerveau qui n'aura pas l'oxygène. Donc la mémoire de l'enfant sera aussi une mémoire basse. Alors, l'eau charriée par la plomberie contient du plomb. Le plomb détruit le cerveau des enfants surtout et fait que ces enfants sont d'une mémoire très faible. Alors, maintenant, quand on parle de la santé c'est bon, mais toutes ces choses, on doit les intégrer. Mais bon, ça dépend. Hein. Oui, les gens regardent, il est de quelle coloration politique peut-être, pour qu'on l'écoute. Mais nous, nous voyons la santé des enfants.
Hein? D'accord.
Ça, nous voyons. Oui. Et les gens ne regardent pas.
Merci, docteur. Alors,
dans l'approche pédagogique,
oui.
J'ai suivi l'approche par compétence et l'approche par objectif. Il ne faut pas qu'on crée deux choses contradictoires. L'approche par objectif comprend le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire crée ce qu'on appelle la compétence. Voilà. Et vous pouvez être compétent si vous n'avez pas le savoir-vivre. Vous êtes qui? Vous allez donner le poste par couissage. Et vous êtes compétent, mais vous êtes qui? Un monstre social.
D'accord.
Merci, c'est ça ma petite contribution.
Merci docteur Richard. Monsieur Jean Moufépé.
Oui, j'aime bien les interventions du docteur Richard. C'est la troisième ou la quatrième fois qu'il intervient quand je suis
vous êtes
avec vous.
Oui,
oui nous commençons à devenir des habitués, bien qu'on ne se connaît pas, on ne s'est pas encore vu. Je remercie donc la contribution du docteur Richard. Je crois que notre pays est en train de connaître une certaine évolution. Évidemment, toutes les innovations ne peuvent pas être prises en considération en une seule fois. Mmh. Dans certains milieux, maintenant, on parle de plus en plus de la nécessité de refaire une table ronde de l'éducation. Et j'ai suivi le ministre Macaire tout à l'heure qui a parlé de la table ronde organisée à Lubumbashi. Mais il serait intéressant qu'on revienne à une certaine table ronde incluant tous les spécialistes intéressés par la question de l'éducation. Ce qu'il dit là, c'est fondamental, c'est important. Mais il faut qu'on arrive à faire prendre conscience à un large éventail de gens intéressés par l'enseignement pour voir à quel niveau on peut intégrer toutes ces choses-là. Et en ce qui concerne Dieu merci, quelle était encore sa question?
Dieu merci, Emmanuel, on déplore le fait que vous avez parlé de certains enseignants qui décèdent, d'autres qui quittent l'école, mais il n'y a jamais eu d'offres d'emploi pour les enseignants. Il n'a jamais vu quelque part où on a publié, on recherche des enseignants pour telle ou telle autre classe.
Bon, là, il y a deux points de vue à considérer. D'abord, les enseignants eux-mêmes se sous-estiment. Ils pensent qu'ils peuvent trouver un emploi sans qu'on fasse un appel d'offres. Chez moi, je crois que j'ai eu un spécialiste de l'éducation, Monsieur Ejene Ebengo Makoke, qui était à Kikwit. C'est lui qui a évalué les candidats que nous devions recruter. Ils étaient à 8 pour 4 postes. 4 ont été éliminés, nous avons retenu 4. Ces 4-là
pour ont... quelle classe?
Les classes du primaire, pour le cycle primaire. Ils ont subi un test par celui que je considère comme un des grands spécialistes de l'enseignement maternel et primaire de chez nous. Il est, rappelons-le, l'auteur des programmes nationaux de maternelle et du primaire. Il est aussi un des auteurs des prévisions de matière de la maternelle et du primaire. Mmh. Donc, chez moi, il a évalué les candidats qui ont postulé. Ils étaient 8. On en a retenu 4. Ça dépend de la politique de chaque institution, de chaque promoteur, de chaque chef d'établissement. Et j'ai suivi d'ailleurs, je crois aussi dans un centre de formation où un chef d'établissement ou un promoteur préférerait prendre ses nièces et neveux en dépit du fait qu'ils n'ont pas de compétences. Ce sont des gens qui n'aiment pas leurs institutions et peut-être qu'ils ne font pas un travail sérieux. Quand on veut un travail sérieux, on lance un appel d'offres et on ne retient que sur base des mérites. Là, c'est une question de choix.
C'est une question de choix. Archange nous appelle de Kikwit. Hein. Bonjour. Archange, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais plutôt aborder une chose dont l'invité n'a pas touché. Lorsqu'il était en train de relever certains points, moi j'ai parlé de la psychologie, dont l'état est lié à certains facteurs, entre autres la motivation. La motivation pour les personnels enseignants et la motivation pour l'élève. Nous savons qu'au début, un élève doit être motivé, entre autres par l'achat des fournitures scolaires, nous avons les cahiers, nous avons les cas des uniformes. Mais lorsque l'enfant qui doit débuter l'année scolaire n'a rien, parce que ses parents n'ont rien touché à la fin du mois, vous ne voyez pas que la psychologie de l'enfant, lorsqu'il arrive à l'école, il est dans un environnement où ses amis sont bien vêtus, ses amis ont des bons uniformes, et puis ils ont des bonnes fournitures. parlant de l'enseignant, la psychologie liée à la motivation, là, je fais aussi allusion à l'argent. Dès le début, l'enseignant doit être payé. Mais s'il vient au début, ses enfants à la maison, il n'a pas satisfait à leurs besoins, et puis lui-même n'a rien touché. Vous voyez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, la rentrée scolaire n'aura pas d'impact parce que la psychologie de l'enfant et de l'enseignant a été un peu bouleversée par certains facteurs, entre autres la motivation.
Merci, Arcange. Merci, Arcange de Kikuit. Omar, vous êtes à Kinshasa. Omar Kigalo, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, jeudi. Bonjour à l'invité. Je ne suis pas pédagogue de formation, mais l'amour que j'ai pour l'enseignement me pose à poser ces questions. Premièrement, si j'ai lu la réforme récente, surtout dans les sections techniques, on parle de l'approche par compétence et on a rejeté l'approche par objectif. Je voudrais que l'invité détermine les caractéristiques de chaque approche et nous dise pourquoi actuellement on préfère l'approche par compétence. Deuxième chose, puisqu'on parle de préalable, moi je pense que les vrais préalables prioritaires sont ceux liés à l'enseignement. Aujourd'hui, par exemple, dans les sections commerciales, il y a des cours qui ont été supprimés, comme l'histoire, comme la religion, mais beaucoup d'écoles n'ont pas été informées. Il y a des écoles qui continuent à les enseigner. Pourquoi le gouvernement ne fait pas un effort d'informer? Il y a des réunions, bien sûr, au niveau de chaque province éducationnelle. On a comme l'impression au niveau des écoles, des préalables, des formations n'est pas fait. Il y a un cours comme fiscalité qui a été inventé. La fiscalité est un cours qui est enseigné à l'université. Mais jusque-là, aucun manuel de la fiscalité adapté au niveau des élèves. Alors, je crois que le vrai préalable devait être celui-là pour adapter, n'est-ce pas, les cours aux différents programmes. Deuxième chose, ou troisième chose, il y a un problème d'environnement. Si vous lisez la loi sur l'enseignement, il est obligé à chaque école d'avoir une cour pour le jeu des enfants et des toilettes appropriées, car l'environnement malsain entraîne la mort des enfants. J'ai comme l'impression que ce préalable n'est pas aussi considéré. On n'a pas d'inspecteur qui vienne pendant les congés pour voir si cela est respecté, parce que dans des pays sérieux, lorsqu'on fait les contrôles que ça n'est pas respecté, l'école ne peut pas ouvrir. Et dernière question, dans les futures réformes, pourquoi on ne peut pas intégrer les réalités africaines, voire congolaises? Nos enfants connaissent Livingstone, ils connaissent Otto von Bismarck, mais ils ne connaissent pas Simon Kimbangu, qui a fait 30 ans en prison plus que Mandela. Ils ne connaissent pas Beatrice Kipavita. Ils ne connaissent pas le vrai formateur de ces pays. Pourquoi dans les futures réformes, comme préalable, intégrer dans nos programmes nationaux aussi les réalités africaines, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme?
Bien, merci, Maître Omar Kigalo. Jean Pépé.
Je prendrai de façon ramassée ce que Arcange et Omar Kigalo ont abordé. Omar, c'est aussi un habitué de cette émission. J'ai suivi plusieurs fois. J'ai répondu à certaines de ses questions. La question financière est une question qui fait mal. Qui fait mal. Ça dépend de beaucoup de considérations. Tout à l'heure, j'ai parlé, comme premier préalable, j'ai dit les dettes des frais scolaires. En deuxième point, j'ai dit les arriérés dus au tiers. Donc, je n'ai pas encore fini les préalables parce que je n'ai pas encore touché les trois derniers points qui restaient. Il y a les prévisions budgétaires qu'il faut faire à l'école pour pouvoir estimer.
Fonctionner durant toute l'année. Et
voilà.
Le budget, le niveau de budget.
Voilà. Parce que parfois, il faut penser à réajuster le salaire des enseignants. Donc, nous sommes arrivés à un point de l'émission où nous devions toucher à cette question de Arcange. Pour revenir au docteur Omar Kigalo, je ne vais pas aborder la question des méthodes ici. Tous les spécialistes d'enseignement savent que il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques. À certains moments, on met en avant une méthode ou une technique parce que on veut atteindre un résultat en considérant qu'avec les premières, on n'a pas pu arriver au résultat attendu. Mais il n'est pas dit qu'au cours d'une leçon, on ne peut s'en tenir qu'à une seule méthode. Ça ne veut pas dire qu'on a aboli la pédagogie par objectif. Par moment, on peut recourir à cette méthode. Par moment, on peut recourir à l'approche communicative. Par moment, on peut recourir. Mais la ligne choisie pour le moment, c'est l'approche par compétence. S'il connaît bien les principes, la question ne vaut même pas la peine de faire tout un cours ici, au cours d'une émission de 1 heure. Et d'ailleurs, c'est difficile maintenant, beaucoup d'enseignants n'ont pas encore connu toutes ces innovations. Alors, le grand problème dans notre pays, l'État produit en amont, en principe, ça devrait partir de la base. Les différentes réformes devraient partir de la base. Mais généralement, ça nous tombe sur la tête et ça, nous avons déjà déploré. Tout à l'heure, j'ai parlé de la nécessité de faire une table ronde pour réunir tous les spécialistes intéressé par la question de l'éducation afin qu'on réfléchisse là-dessus.
Voilà, vous avez suivi Omar Kigalo parler également de l'environnement dans lequel les enfants vont évoluer. Est-ce que les inspecteurs passent pendant les vacances pour voir, pour constater s'il y a une cour ou dans quel état se trouvent les toilettes, parce que bon nombre des toilettes dans les écoles ne sont pas propres.
Il y a divers services qui entrent en ligne de compte. Il y a le service d'hygiène de la ville, de la commune, qui passe régulièrement chez moi. Il passe pour se rendre compte de l'état des latrines. Et déjà dans les conditions de viabilité pour l'agrément d'un institut ou d'une école, les ministères insistent qu'on voit s'il y a des latrines. Et même on compte le nombre, on fixe le nombre qu'on devrait avoir par effectif d'élèves. Oui, parce que si ça ne peut pas tenir, mais avec la naissance, la floraison des écoles aujourd'hui, tant publiques que privées, parfois dans une petite cour, on met une école et vous n'avez pas la possibilité de faire des latrines décentes. C'est ça qui est malheureux, évidemment. Mais le contrôle des toilettes, le contrôle des sanitaires dans l'école se fait par les services d'hygiène de la commune, de la ville et par l'inspection de l'enseignement.
C'est ce qui n'est pas toujours le cas, Jean-Pépé.
Bon, c'est... Ils le font,
mais... Ces services sont censés les faire, mais en réalité...
Ils peuvent le faire, mais quelles sont les mesures après? Quand ils constatent qu'il y a des dégâts, quand ils constatent qu'il y a des insuffisances, généralement, on se tait, moyennant
une petite enveloppe, okay. Et puis l'affaire est terminée, okay. L'affaire est close.
Okay.
Et Ismaël nous appelle de Lumbashi et Clément de Kananga. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Ismaël.
Ok, ma première suggestion était de savoir réellement à quelle période on peut tenir une réunion pédagogique, dans le sens qu'aujourd'hui c'est le 5 où les élèves devaient retourner à l'école. Mais c'est peut-être que vous pouvez retrouver les enseignants, d'autres sont soit allés passer les congés ailleurs, ils ne sont pas encore là. Et au niveau de l'horaire d'une école, soit un enseignant viendra trouver les cours déjà en marche et il pourrait chercher maintenant à se rattraper. Maintenant, à quel moment pour bien se rattraper avec les cours par les enseignants? À quel moment ils peuvent aussi se réunir pour savoir le bon fonctionnement de l'école? Mais en tout ce qu'ils peuvent faire, mais pourquoi la motivation et l'émulation entre le professionnel éducatif sont nécessaires? À part ça, nous avons pu constater encore que l'école aujourd'hui, bon, il se peut qu'on évalue comme si on va au marché et on achète tel ou tel article, on peut le vendre à tel ou tel prix. Et les élèves ne parviennent pas à se retrouver correctement. Tel que au niveau de palmarès, c'est présentement où vous allez voir maintenant les élèves en train de prendre leur inscription. Et au niveau du recrutement, à quel moment ou à quelle période l'inscription peut prendre fin? Et au niveau aussi sanitaire, il se peut que l'éducation englobe tout. Et la notion nutritive et tout. Mais à des fois, nous avons vu que certaines notions sont respectées, d'autres ne sont pas respectées, telles qu'au niveau de l'éducation physique, et les autres, les tenues même que les élèves peuvent apporter pour s'entraîner. On va toujours brusquer le parent jusqu'à quand les élèves sont à l'école. Maintenant, pour le briefing de personnel, à quel moment ou à quel niveau, soit si c'est un briefing au niveau national, mais comment l'école peut aussi se métamorphoser avec ce genre de briefing pourvu que les enseignants puissent aussi adapter leur enseignement.
Merci,
c'est
Ismaël.
C'est ce que j'avais. Merci beaucoup.
Clément, vous êtes à Kananga. Hein? Bonjour.
Bonjour, c'est Daniel Nkachama. Bonjour aussi à l'invité de la Radio Okapi.
On vous écoute, bonjour. Clément.
Il est vrai que selon l'introduction de l'invité de la Radio Okapi, je l'ai entendu parler d'autres activités scolaires qui sont liées au programme national. Alors je voudrais juste savoir pourquoi ces activités scolaires liées au programme national ne sont pas respectées. Entre autres, il y a des écoles comme l'Institut technique agricole qui peuvent normalement se donner aux pratiques nationales ou vraiment aux pratiques qui doivent normalement être conformes aux certaines notions que les enfants doivent bénéficier. Par même la coupe couture. Et puis, des écoles pareilles, vous allez remarquer que non, ces écoles ne se donnent pas vraiment aux pratiques nationales, aux pratiques professionnelles. Pourquoi, normalement, on n'arrive pas à respecter ça?
Merci.
Alors, la deuxième question que je voudrais juste aussi demander,
oui.
J'ai entendu l'invité parler de la santé des enfants. Soi disant, il y a certains enfants qui doivent aller à l'école en famille, ils n'ont pas mangé, mais admettons par rapport à la possibilité que peut normalement voir les parents. Si on n'a pas normalement mangé, est-ce qu'il est vrai que les enfants restent à la maison? Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas mangé ou puisqu'on n'en a pas? Voilà. Ou bien les permettre d'aller à l'école affamés afin d'améliorer et puis préparer leur avenir. Voilà ce que je voudrais juste savoir, si vous pouvez m'expliquer brièvement. Et
d'accord.
Puis me permettre à ce que je puisse vraiment capter ça facilement.
Merci.
Afin d'aider ceux qui prennent vraiment au moins sérieux les études de leurs enfants conformément à certaines conditions liées à leur vie. Voilà ce que je voudrais juste savoir. Merci de m'avoir accordé la parole. Je dis bonne journée chez vous.
Merci Clément Jean, vous pouvez
parler. J'aimerais dire à Ismaël et à Clément que si ça ne marche pas, c'est pas le ministre Maker Mwangu qui doit descendre dans la rue ou bien dans les écoles pour faire marcher. Par exemple, la question que vous posez à propos des réunions ou même de recyclage. Mais tout est réglé. Il y a un calendrier scolaire que le ministre met à la disposition des enseignants à travers leur gestionnaire chaque année. Tout ça est réglé. Il y a les dates des inscriptions, les dates des réunions, des différentes réunions. Il y a les dates la date de la reprise des activités des administratifs et des enseignants. Tout est sur le calendrier scolaire. Nous avons un système qui marche quand même, qui fonctionne. Et vous n'allez pas demander au ministre, vous n'allez pas demander à l'IPP, au Proved, de descendre dans les écoles pour faire appliquer. Mais où situez-vous la responsabilité des parents? Parce que ce sont eux qui sont les bénéficiaires de l'action éducative à travers leurs enfants. Et là, quand on parle, par exemple, de certains cours ou de certaines applications qui ne se font pas en coupe et couture, mais les parents, quel est leur rôle? Vous êtes constitué en comité des parents,
comité
en association
des parents.
Quel est votre rôle? Je me rappelle, j'ai dit tout à l'heure que dans les écoles de la Fondation Banaté, du 1er au 15 juin, nous faisons une porte ouverte, nous demandons aux parents, aux élèves, aux enseignants de faire la critique. Maintenant, nous nous rabattons surtout aux critiques des enfants et des enseignants. Les parents ont démissionné et ne veulent pas faire leur critique. Ah, nous faisons déjà trop à chercher de l'argent. Mais vous savez que dans cette école, on n'a pas respecté tel programme. On n'a pas respecté ce que vous aviez convenu avec la direction. Vous ne demandez pas de compte. Ben, ce n'est pas au ministre d'aller descendre sur le terrain pour... Il va contrôler combien d'écoles...
Le comité des parents est là pour...
Oui, mais c'est ça. Le ministre va contrôler combien d'écoles. Combien? Pour toute l'étendue de la République, qui est un continent. Donc chacun doit, à son niveau, voir qu'est-ce qu'il peut faire. L'obligation de nourrir les enfants, c'est l'obligation des parents. Quand, par exemple, on dit « je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants », et quand ils tombent malades, comment faites-vous pour les soigner? Prenez la question de l'éducation comme la question de la santé. Autant que vous faites un effort pour trouver des médicaments pour un enfant qui est malade, autant vous devez faire un effort pour pouvoir nourrir les enfants. On ne vous demande pas de donner, évidemment, une grosse boule de foufou nécessairement, parce que c'est en fonction des moyens dont vous disposez.
Voilà, c'est en fonction des moyens dont vous disposez. Arsène nous appelle de Kikuit et Flavien de Lubumbashi.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Quels sont les préalables pour bien démarrer une année scolaire? Arsène, vous êtes à Kikuit, Flavien, à Lubumbashi. Arsène, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Moi, à mon avis, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt des propositions à faire.
Oui.
Pourquoi? Parce que moi, je trouve que l'enseignement est une globalité de toutes les activités de la vie. Donc, l'enfant, dès son bas âge, doit être formé pour avoir la, assez de quoi ça, de maturité intellectuelle qui permettra au bon rendement pendant toute sa vie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que moi aussi je suis passé à l'école. À voir l'époque où nous sommes passés à l'école et l'époque d'aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de pleurnicher. Mais on peut-on pas chercher une stratégie pour que les écoles ne puissent pas avoir de problèmes à chaque rentrée scolaire, que les enseignants ne puissent pas avoir de problèmes à chaque rentrée scolaire, et que nous puissions avoir la matérielle, les matériels plutôt didactiques conséquents à la formation que nous devons donner à nos enfants. Non, la stratégie, je prends un petit exemple, que nous avons initié quelque chose avec le collège Jean 23, ex-infra. Voilà ce que nous avons pensé. Nous avons pensé que cette école avait vraiment tout ce qu'il fallait pour donner une bonne formation. Mais depuis lors, on constate que pas de subventions, pas un bon paiement des professeurs, pas de moyens pour les parents afin d'assurer la bonne éducation de leurs enfants. Et nous avons initié à créer une pépinière où les enfants eux-mêmes vont préparer leur avenir. Les enfants vont travailler, plantant les arbres fruitiers, les arbres industriels et des arbres pour la reforestation de quoi ça dit l'oxygène. Et à partir de là, vous verrez que 5 ans après, tous ces arbres vont produire de cette production. Si nous avons assez des arbres, nous aurons une production nécessaire qui pouvait assurer une subvention de beaucoup de frais qui vont permettre à ce que dans 5 ans, qu'il y ait la belle rentrée scolaire. Donc d'accord, il faut prendre le temps et une bonne stratégie. Voilà un peu ce que je voulais ajouter.
Merci
à ce qu'a dit notre invité.
Merci Arsène. Flavien, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour à notre invité. Moi, j'ai bien suivi l'invité. En tout cas, j'ai une question à lui poser. Si mes calculs sont bons, une année scolaire compte au moins 210 jours. Mais, en ce qui concerne les élèves de 6e des humanités, comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à terminer leur programme dans les 210 jours? Parce que ici à Lubumbashi, nous voyons les élèves de 6e sont occupés dès le premier jour jusqu'à la veille même des examens d'État.
Oui.
Un élève qui, même dans des vacances, il est occupé. Et chose grave, il y a même des arrangements entre les professeurs et les préfets des études et les directeurs. Les enseignants ne donnent pas cours dans les heures de cours. Il attend peut-être un samedi ou un dimanche parce qu'on est on vient moyennant 1 000 francs ou 500 francs pour accéder dans la salle. Comme on est en 6e, on est victime. Ils sont toujours obligés de payer.
D'accord.
Si l'invité peut un peu nous éclairer en ce qui concerne l'année scolaire, dans les 210 jours, un élève de 6e peut terminer son programme ou pas?
D'accord, merci. Jean Moupépé.
Je remercie Arsène de Kikuit et j'appuie son idée avec deux cas précis. L'inspecteur Kimana, l'inspecteur principal, inspecteur chef de poule du primaire, à l'époque conseiller, et même un inspecteur qui venait de décéder il n'y a pas longtemps, l'inspecteur Lessois, conseiller l'organisation des jardins scolaires. Ce sont des possibilités pour créer un peu de ressources dans les écoles. Je me rappelle moi-même quand j'étais élève au collège de Sadisana à Kikuit, nous étions à l'internat, nous plantions des légumes. Une partie était vendue et une partie nous consommions nous-mêmes à l'internat. Ça a contribué à améliorer.
Et qui vont aller travailler dans ces jardins? Les élèves ou bien
l'école?
Mais
il y a des heures de travail manuel prévues sur l'horaire. On ne va pas inventer la roue.
Oui.
Qu'est-ce que nous faisons de ces temps-là? Que faisons-nous
de ces temps? Les élèves vont planter.
Mais pourquoi pas ils doivent apprendre
quelques arbres fruitiers.
Oui.
D'accord.
À travailler. Alors, en ce qui concerne Flavien,
Arsène a parlé aussi du matériel didactique. On va démarrer une année, l'école n'a pas de livres, assez de livres, il n'y a pas assez de matériel didactique pour former les enfants, ça c'est un problème.
Nous nous trouvons dans un pays qui connaît beaucoup de problèmes. Et donc, si nous devons partir du passé, nous disons tout et revenez à l'État. Moi, j'ai reçu en 2e primaire, le premier jour de l'école, j'ai reçu du gouvernement congolais de l'époque, 2 paires de chaussures, 2 tenues d'uniforme, tous mes cahiers, tous mes livres, un encrier, un flacon d'encre, disons, un flacon d'encre, tout, j'ai recevé du gouvernement. Mais est-ce que pour le moment nous pouvons arriver à avoir cette situation compte tenu de tous les problèmes que connaît le pays? Donc maintenant, vous allez me dire que là où les gens prennent des initiatives pour organiser des activités d'autofinancement et équiper les écoles tant bien que mal. Et ce n'est pas possible. Pourquoi les autres ne le font pas? Je pense que les initiatives qui ont réussi dans certaines écoles, nous pouvons arriver à les dupliquer ailleurs.
Et on mais peut c'est arriver à certaines s'équiper. Pratiques dans les écoles où on transforme les parents en vaches de lait, les écoles commencent à vendre tout, hein, les cahiers de communication, cahiers de dessin, on vend les uniformes, on vend même des catchs, finalement, les écoles deviennent des lieux de business.
Oui, on peut le dire, mais il y a des raisons aussi qui font qu'on puisse, dans certaines écoles, arriver à cette pratique. Qu'allez-vous faire dans une école? Moi, il m'arrive d'acheter des cahiers aux enfants. Évidemment, je prends dans la caisse. Hein, là où je sais que j'ai dépensé moins, je prends dans la caisse. Je ne peux pas accepter qu'un enfant se présente à l'école sans cahier. Je supplée. Mais j'ai dit tout à l'heure que chaque parent doit pratiquer la politique de ses moyens. N'allez pas mettre votre enfant dans une école où vous ne pouvez pas répondre aux exigences. Voilà. Oui. Il y a des écoles qui disent il faut que tous les enfants aient tout le matériel, tout l'équipement demandé pour qu'il soit capable de suivre au même moment.
Il y a des écoles qui demandent les papiers hygiéniques, les papiers duplicateurs, vous venez avec ceci, venez avec cela.
Mais vous voulez que l'on fasse quoi, Jody? Puisqu'on doit travailler, si l'enfant n'amène pas, il nous arrive parfois d'utiliser les papiers en supplément achetés avec les frais de fonctionnement pour aider les enfants. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas trouver un responsable accusé. Nous sommes tous condamnés ou à condamner. Alors, pour revenir aux élèves de 6e, selon la question de Flavien, nous devons apprendre. Le calendrier scolaire, c'est un document très important que le ministère met à nos dispositions. Pour cette année, c'est 222 jours. Mais nous n'allons pas seulement incriminer les enseignants, les chefs d'établissement. En 6e, les élèves ont acquis une mauvaise habitude. Les élèves qui arrivent en 6e souvent reviennent en retard à l'école. Et ils deviennent souvent indisciplinés, ils n'obéissent peut-être pas aux directives de chefs d'établissement, eux-mêmes perdent du temps. Et il y a ces problèmes de crise, les parents qui disent « je n'ai pas réussi à tout réunir », bon, l'enfant reprendra une semaine plus tard. Il y en a d'autres, par exemple à Kikwit, qui sont en vacances à Kinshasa, avec les bus qui sont difficiles, qui sont bondés, ils ne trouvent pas de place, ils reviennent forcément en retard. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous devons tous nous battre pour faire respecter ce qui a été prévu, pour canaliser tous les efforts vers la réussite des activités de nos élèves.
D'accord. Merci Jean Moupépé. Je rappelle que vous êtes promoteur d'école privée à Kikwit et Bandounouville. Vous êtes aussi le président provincial de la SONEPA, Association nationale des écoles privées agréées. Merci et à la prochaine.
Merci, c'est moi qui vous remercie.